VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du lundi 6 décembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Eric Maniaki.
Nous commençons par les titres.
En Gambie, le président sortant Adama Barrow, proclamé vainqueur de la présidentielle, sa victoire contestée par le perdant.
12 militaires et des dizaines de terroristes tués samedi dans l'ouest du Niger, dans la zone dite des trois frontières.
Au Mali, un camp de la MINUSMA à Gao visé par des explosions.
Le Sénégal détecte ses trois premiers cas du variant Omicron de coronavirus.
Birmanie, Aung San Suu Kyi, condamnée à 4 ans de prison par la junte.
Le pape François appelle à mettre fin à un naufrage de civilisation dans un vibrant discours au camp de migrants de Lesbos.
Ne manquez pas à notre passeport avec Élisée, on patine.
Pour l'instant, le journal.
En Gambie, le président sortant Adama Barrow a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Une proclamation saluée dans les rues de Banjul par des dizaines de milliers de supporters, mais contestée par ses adversaires. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Adama Barrow a recueilli plus de 53% des voix selon les résultats diffusés par la commission électorale. Son principal concurrent, Ousseynou Darboué, a obtenu 27,7% des suffrages. Des foules de partisans d'Adama Barrow ont défilé dans les rues de la capitale. Ils ont ovationné le président quand celui-ci leur a adressé la parole pour endosser la victoire avec un grand sentiment de joie et d'humilité, dit-il, les appelant à respecter les électeurs de ses concurrents. L'élection qui se jouait sur un tour a été libre, juste et transparente, a assuré M. Barrow. Mais ses adversaires disent contester ses résultats et se réserver tous les moyens d'action. Pour le moment, nous rejetons les résultats jusqu'à présent annoncés par la commission électorale, a dit devant la presse Ousseynou Darboué, aux côtés de deux autres de ses concurrents. Il a ajouté que tous les moyens d'action sont sur la table, appelant tous les Gambiens à rester calmes et pacifiques le temps que des investigations soient réalisées. D'après M. Darboué, les représentants de certains candidats présents au moment des opérations de comptage ont constaté un certain nombre de problèmes. La CEDEAO a exhorté tous les candidats à accepter de bonne foi l'issue de cette élection. Le taux de participation s'élève à environ 87% selon les résultats officiels.
Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier qu'au moins 12 militaires nigériens ont été tués et 8 blessés et des dizaines de terroristes neutralisés, c'est-à-dire tués samedi dans d'intenses combats dans l'ouest du pays, à l'intérieur de la zone dite des trois frontières. Les accrochages ont eu lieu à 5 kilomètres de la localité de Fantio, entre les militaires nigériens et des centaines de terroristes armés, selon un communiqué.
Plusieurs motos des assaillants ont été détruites et des moyens de communication récupérés, souligne-t-il. Dans un premier temps, les militaires nigériens se sont farouchement défendus et ont occasionné des dizaines de morts à l'ennemi avant d'être submergés par leur nombre, explique le ministère. Mais des renforts venus des villes de Ouanzarbe et de Tera, ainsi que le soutien aérien contribuèrent à mettre l'ennemi en déroute qui a abandonné des dizaines de morts et du matériel, relève-t-il.
Au Mali, deux explosions ont ciblé hier à Gao, dans le nord du pays, un camp de la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, occasionnant des dégâts matériels, mais pas de victimes, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. Les explosions qui ont eu lieu dimanche à 5h45 temps universel ou GMT ont fait vibrer les braquements et poussé les militaires à se réfugier dans des abris pendant 2 heures. Il y a eu 4 impacts sur le camp et des dégâts matériels uniquement, selon l'armée française qui n'a pas précisé l'origine des explosions.
Il y a eu également des tirs de mortiers sur les camps de la MINUSMA samedi à Kidal et à Ansongo, dans le nord du pays, a dit à l'AFP Myriam Desable, directrice de la communication de la MINUSMA. Elle a précisé que ces tirs n'ont pas fait de dégâts. Ces incidents surviennent alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane.
Le Sénégal a enregistré ses premiers cas positifs au variant Omicron du Covid-19. Trois voyageurs sortants qui ont séjourné à Dakar et dont un a participé à une grande manifestation ont été testés positifs entre fin novembre et début décembre par les deux instituts de référence du Sénégal. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
C'est l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF de Diamniadio qui a communiqué le premier cas positif au variant Omicron détecté le vendredi 3 décembre 2021 chez un voyageur sortant. Il s'agit d'un homme de 58 ans vacciné contre le Covid-19 et arrivé au Sénégal le lundi 22 novembre 2021 par un vol en provenance d'un pays de la sous-région. Il a séjourné dans un hôtel de Dakar et a participé à une manifestation qui a regroupé près de 300 personnes de plusieurs nationalités du 24 au 25 novembre 2021. Il a été isolé et mis en quarantaine. Il est actuellement suivi dans un centre de traitement des épidémies. Suite au communiqué de l'IRSF, l'Institut Pasteur de Dakar a également indiqué avoir identifié ces deux premiers cas d'infection au variant Omicron chez deux voyageurs sortant de Dakar. Un homme de 28 ans ayant séjourné dans un quartier de la capitale prélevé le 23 novembre 2021 et en partance pour un pays de la sous-région. Il y a également une femme de 29 ans qui se trouvait dans un hôtel de Dakar également testée positive le 1er décembre 2021 et dont la destination était l'Afrique australe. L'Institut Pasteur de Dakar indique cependant que sur les 22 séquences obtenues récemment, le variant Delta reste majoritaire avec 20 cas positifs sur 22. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Des premiers signaux venus d'Afrique du Sud concernant la gravité des cas liés au variant Omicron sont un peu encourageants, a déclaré hier le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. Le point avec Bagassi Koura.
Se référant à la courbe verticale du nombre de nouveaux cas en Afrique du Sud, Dr Anthony Fauci a déclaré que dans la nation arc-en-ciel, Omicron se transmet davantage. Mais jusqu'ici, même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on ne dirait pas qu'il présente un haut degré de gravité, a-t-il ajouté. Il a toutefois averti qu'il ne s'agit que de données préliminaires. Les études en laboratoire sont en cours pour déterminer dans quelle mesure ce nouveau variant est davantage transmissible, capable de résister à l'immunité induite par une première infection ou un vaccin, ou de provoquer des cas plus graves de la maladie. Je pense qu'il y a un réel risque que nous voyions une baisse d'efficacité des vaccins, a de son côté déclaré Stephen Hodge, le président de Moderna. Cette firme, comme d'autres entreprises pharmaceutiques dont Pfizer, dit avoir commencé les travaux pour adapter leurs vaccins si nécessaire. Omicron est désormais confirmé dans au moins 15 États américains et une quarantaine de pays dans le monde.
Le Danemark, un des pays les plus en pointe en Europe pour détecter les variants, a annoncé un bond préoccupant à 183 cas confirmés d'Omicron, suggérant que le nombre des cas ailleurs en Europe pourrait être très sous-évalué.
Et l'Arabie Saoudite va accepter à partir du 1er janvier 2022 les voyageurs vaccinés avec le Sputnik V. Russe a annoncé Moscou. Cette décision va permettre aux musulmans vaccinés avec ce sérum de participer au pèlerinage à la Mecque et à Médine, selon le fonds souverain russe qui a financé la conception du vaccin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Birmanie, un tribunal a condamné ce lundi l'ex-chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la junte.
L'ancien président Win Myint a été condamné à la même peine, a-t-il dit, ajoutant qu'il ne serait pas conduit en prison pour le moment. Ils devront faire face à d'autres accusations depuis les lieux où ils séjournent actuellement dans la capitale birmane, a ajouté ce porte-parole sans donner plus de détails. Aung San Suu Kyi, âgée de 76 ans, est détenue depuis que les généraux ont renversé son gouvernement aux premières heures du 1er février, mettant ainsi fin à une brève parenthèse démocratique en Birmanie.
Ici aux États-Unis, l'ex-sénateur républicain Bob Dole, candidat malheureux à la Maison-Blanche, est mort hier à l'âge de 98 ans. La nouvelle a déclenché un afflux d'hommages pour ce héros de la Seconde Guerre mondiale, Abdurrahman Dia.
L'Amérique a perdu l'un de ses héros. Notre famille a perdu son roc, a déclaré la famille Dole dans un communiqué. En février, l'ancien sénateur avait annoncé être atteint d'un cancer avancé des poumons. Le président Joe Biden a salué un homme d'État américain, un héros de guerre ayant un sens de l'honneur et de l'intégrité infaillible. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ordonné la mise en berne des drapeaux du Capitole. Quelles que soient leurs opinions politiques, tous ceux qui voyaient Bob Dole en action admiraient forcément son caractère et son profond patriotisme, a réagi le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. Né le 22 juillet 1923, Bob Dole est rentré médaillé mais gravement blessé de la Seconde Guerre mondiale. Il subit opération sur opération pendant 3 ans, réapprend à marcher et retrouve la maîtrise de son corps, à l'exception du bras droit. Il entre au Congrès en 1961, d'abord comme représentant, puis comme sénateur du Kansas, entamant une carrière parlementaire de 35 ans. 3 fois candidat à l'investiture républicaine, il s'est finalement lancé dans la course à la présidence en 1996, mais a été battu par Bill Clinton.
Le pape François quitte la Grèce ce lundi. Hier, il a appelé à mettre fin à un naufrage de civilisation dans un vibrant discours au camp de migrants de Lesbos, 5 ans après sa première visite sur cette île grecque, emblématique de la crise migratoire. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation, a lancé le souverain pontife.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football à la une avec la Coupe de la CAF et on connaît presque tous les qualifiés pour la phase de poule.
Oui, et Coton Sport de Garoua, demi-finaliste l'an dernier, y sera après sa victoire 2-0 devant les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Ça passe aussi pour 2 anciens vainqueurs de la compétition, la Renaissance du Berkane et le club sportif sfaxien, tout comme les Algériens de la JS Aoura qui ont renversé les Ghanéens d'Assofoc. Qualification également de la SEC d'Abidjan, double vainqueur des Angolais d'Interclobé, de Simba de la Tanzanie et des Congolais de l'Est Otoo Doho, tombeur des Kenyans de Gormaya.
En revanche, les 2 clubs maliens engagés ont été éliminés.
Oui, immense déception pour le Stade malien éliminé au tir au but par Al Ahly Tripoli et Binga FC, club de 2e division, qui a frôlé l'exploit face aux Zambiens de Zanaco. Bilan décevant aussi pour la RDC. Si le TP Mazembe s'est qualifié au détriment des Sud-Africains de Marumo Galant, ce n'est pas le cas de Maniema Union et du Daring Club Motéba Pembe, sortis respectivement par les Égyptiens de Pyramide et les Nigériens de l'US Gendarmerie. Coup d'arrêt aussi pour les Nigériens de Rivers United, éliminés par l'autre club égyptien Al-Masri.
La Coupe arabe des nations à présent, la compétition se poursuit au Qatar.
Tout à fait. Et début aujourd'hui de la 3e et dernière journée de la phase de poule. 2e du groupe B, la Tunisie a son destin en main face au leader du groupe, les Émirats Arabes Unis. Au même moment, la Syrie 3e sera face à la Mauritanie, dont la chance de qualification est mince. À noter que 3 pays africains ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale à l'issue de la 2e journée, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Les Pharaons ont largement battu le Soudan 5-0 et les Fenech 2-0 face au Liban. Les 2 sélections s'affronteront donc demain avec pour seul enjeu la première place du groupe D. De leur côté, les Lions de l'Atlas ont aussi assuré dans la poule C contre la Jordanie, score 4-0.
Handball avec le mondial féminin en Espagne.
Et grosse désillusion pour les 4 représentants africains qui n'ont pas encore enregistré la moindre victoire après 2 matchs. Dans le groupe A, l'Angola s'incline fin 30 devant le Monténégro, tout comme le Cameroun dans la poule B qui n'a pas existé face à la Serbie, vainqueur 43-18. La veille, dans le groupe F, le Congo et la Tunisie ont aussi essuyé leur second revers. Les Tunisiennes ont frôlé l'exploit contre la Corée du Sud, seulement battue 31-29. En revanche, l'autre défaite 30-18 des Congolaises face aux Danoises. Et puis, du basketball pour terminer avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Toronto et Washington 102 et 90, Houston et la Nouvelle-Orléans 118 et 108, Charlotte et Atlanta 130 et 127, Utah et Cleveland 109, 108. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, observation depuis hier d'un day national de 3 jours après l'attaque terroriste de vendredi dernier qui a visé un véhicule de forains quittant le village de Songo pour se rendre à la foire de Bandiagara. Cette attaque survenue dans le centre du pays en proie à un conflit entre chasseurs d'onzo et terroristes a fait une trentaine de morts, en majorité des femmes et des enfants. Notre correspondant Mohamed Danyoko revient sur les circonstances de cette attaque et les réactions qu'elle a suscitées.
Le 3 décembre, entre 9h et 10h, un véhicule quittant le village de Songo pour se rendre à la foire du Bandiagara a été attaqué juste en arrivant à la route nationale 15. Cédou Tembiné, chargé de communication de l'Association pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Gina Dogon, et de l'Association pour le développement du cercle de Bandiagara, revient sur la condition de cette horrible attaque.
Les terroristes et bandits armés ont abattu les chauffeurs et fermer la porte du véhicule et mettre du feu. Donc tous les occupants qui s'y trouvaient, des femmes avec leurs enfants, des bébés, des femmes enceintes, des adolescents, plus d'une trentaine de personnes ont péri dans le feu d'une manière atroce.
Cette énième attaque sur ce axe n'a pas laissé indifférents les Maliens, notamment la plateforme des mouvements et associations du pays Dogon, qui a, le samedi 4 décembre, organisé un point de presse pour dénoncer l'insécurité grandissante dans cette partie du pays et interpeller les autorités à venir au secours des populations. Selon Boubacar Yalkoué, journaliste, les populations ont marqué le coup lors de la visite du gouverneur de la région de Bandiagara, Meissa Fane, sur le lieu de l'attaque et dans le village de Songo.
Le gouverneur de la région de Mopti de Bandiagara s'est déplacé au niveau du village de Songo pour présenter les condoléances. Il a eu à remettre une enveloppe de 200 000 francs et puis aussi une ou deux tonnes de céréales. Et vraiment, le geste a été rejeté carrément par les populations qui ont dit qu'elles n'ont pas faim, qu'elles n'ont pas soif, mais qu'elles ont eu seulement besoin de la sécurité.
La plateforme des mouvements et associations du pays Dogon, lors de sa conférence de presse, a salué le fait que les autorités aient décrété 3 jours de deuil national commencé hier dimanche à 0h. Mais la plateforme compte aussi mener d'autres actions pour se faire entendre. Boubacar Yalkoué, journaliste.
Le fait que le président de la transition a décrété 3 jours de deuil national qui a commencé le dimanche, mais ils disent également qu'ils souhaiteraient vraiment voir des actions d'envergure, des actions à hauteur des souhaits sur le terrain. Et au-delà de ça également, ils se sont dit qu'à l'allure où vont les choses, ils n'ont pas le choix. Ils seront obligés non seulement de se manifester à Bamako ici, mais par-delà également, voir dans la mesure du possible les actions fortes aussi à mettre en place aussi au niveau du pays de Gon.
Dans un post sur Facebook, les forces armées maliennes ont fait savoir que ce même vendredi 3 décembre, une mission de séjour opérationnelle conduite par le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko a été prise à partie par un groupe armé terroriste sur l'axe Rarous-Gossi dans le secteur de Tin Alata. Le bilan a été de 4 morts dans les rangs des terroristes et 4 blessés légers côté forces armées. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Sahel toujours, ouverture ce dimanche à Nouakchott en Mauritanie d'un sommet sur l'éducation visant à mobiliser les ressources financières nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement dans une région minée par l'insécurité. Mais comment réussir un tel pari dans les conditions actuelles? Notre correspondant dans la capitale mauritanienne, Mohamed Diop, a posé la question au président du Niger, Mohamed Bazoum.
Le sommet de Nouakchott sur l'éducation au Sahel est placé sous le slogan « Le Sahel de demain se construit aujourd'hui à l'école ». La rencontre réunit des premiers ministres et chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel, dont le président Mohamed Bazoum, qui croit en la possibilité de promouvoir les systèmes éducatifs au Sahel, même dans le contexte d'insécurité qui règne actuellement dans la région.
À certains égards, l'insécurité peut être aussi le symptôme de la panne de notre système éducatif, de nos systèmes éducatifs. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes en proie à cette insécurité que nous devrions renoncer à ce qui est essentiel, en l'occurrence l'éducation. Malgré nos problèmes, nous nous retrouvons sur l'essentiel pour marcher ensemble et nous donner la main dans la promotion de nos systèmes éducatifs.
Mais pour promouvoir l'éducation, les pays du Sahel doivent impérativement développer le capital humain, ajoute-t-il.
C'est une des plus grandes faiblesses de nos économies, la faiblesse du capital humain. La première ressource dans l'économie d'un pays, en tout cas, qui en est la condition sine qua non, c'est l'éducation.
Le président Bazoum invite donc les gouvernements d'Israël à harmoniser leurs stratégies et politiques relatives à l'éducation.
En faisant la promotion de l'éducation de la jeune fille, en faisant la promotion de l'alphabétisation des femmes, des jeunes, autant donc d'enjeux de cette réflexion que nous allons porter. Nous, pays du Sahel, avec la Banque mondiale, qui est un grand partenaire à l'ensemble de nos pays.
Cette réflexion devra aboutir à la mise en place d'une feuille de route pour consolider les investissements dans le domaine éducatif au Sahel pour les 10 prochaines années. Mais d'ici là, le président mauritanien Mohamed Oudoucher El Razouani appelle à la mise en place d'une alliance de l'éducation au Sahel et à la création d'un institut du Sahel pour les sciences de l'éducation et l'innovation pédagogique, dont les locaux pourraient être logés à Nouakchott. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Au Nigeria, vaccin obligatoire pour tous les fonctionnaires du pays, une décision du gouvernement qui coïncide avec la confirmation de 3 cas du variant Omicron. Le Nigeria totalise plus de 215 000 cas d'infection au Covid-19 et près de 3 000 décès. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis le 1er décembre, les travailleurs de la fonction publique sont invités à soumettre des résultats de tests PCR datant de moins de 72 heures ou une carte de vaccination comme alternative avant d'être autorisés à accéder à leur bureau. Plusieurs mois après l'introduction des vaccins, certains Nigériens jouent toujours à la réticence et ne sont pas convaincus de la nécessité de se faire vacciner malgré les assurances répétées du gouvernement sur la sécurité des vaccins. Jean-Paul Ebuka n'est pas encore vacciné.
Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut prendre, parce que si vous vérifiez les statistiques de l'OMS, beaucoup de gens qui ont reçu les vaccins ont aussi été infectés par le même Covid-19. Donc je ne crois pas que c'est quelque chose que je dois prendre.
Le Nigeria a lancé une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 à Abuja, dont le but est d'empêcher une augmentation des cas de coronavirus. Nidrak Chuks manque encore de détermination pour se faire administrer le vaccin.
Il n'y a aucune raison encore, peut-être que je n'ai pas encore décidé de trouver un temps pour aller me faire vacciner. Mais je suis disponible. Je pourrais aller le faire à n'importe quel moment. Je pense qu'il y a encore plus de temps pour le faire, donc j'irai prendre le vaccin.
À la porte du secrétariat fédéral à Abuja, un pavillon de vaccination est installé près de la porte principale du secrétariat pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. Des foules de personnes se rassemblent ici chaque jour pour prendre le vaccin. Mais la colère se lit sur le visage de beaucoup obligés désormais de prendre l'un des vaccins disponibles au Nigeria.
Comme le gouvernement demande de nous faire vacciner, nous allons le faire. Si c'est cela qui doit mettre fin à la propagation du Covid-19, nous devons respecter cet ordre. Premièrement, il faut d'abord connaître les antécédents médicaux de chacun de votre personnel pour comprendre qui doit prendre ce vaccin, oui ou non.
Des sites de vaccination sont également mis en place dans les établissements de santé privés, les universités, les églises et mosquées et les centres commerciaux. Les autorités fédérales multiplient les rencontres pour faire face à la crise, comme le dernier meeting avec les commissaires à la santé des 36 États le week-end dernier, le premier du genre depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le ministre nigérien de la Santé, Osagie Ohanire.
Une campagne de vaccination de masse visant à faire vacciner 50% des Nigérians éligibles d'ici fin janvier 2022 est en cours. Mais le scepticisme vis-à-vis des vaccins reste toujours un défi et les États ont un rôle à jouer. Honorable commissaire, nous devons continuer à envisager des mesures avec le soutien du gouvernement fédéral pour faire face à ces problèmes et autres défis.
Le Nigeria a pu obtenir jusqu'à présent plus de 10 millions de doses de vaccins d'AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech et de Johnson & Johnson pour une population de plus de 200 millions d'habitants. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Que font de nos jours sur Internet les jeunes? En Côte d'Ivoire comme ailleurs, ils consacrent quotidiennement de longues heures aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et surtout aux réseaux. Incursion dans l'univers des réseaux sociaux avec ce reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boyce.
La nouvelle technique de l'information et de la communication facilite l'interactivité et permet aux utilisateurs de ménager moins d'efforts pour échanger via les plateformes d'échange que sont les réseaux sociaux, de communiquer à travers des groupes professionnels et associatifs. Que cherchent donc les jeunes sur Internet? Des personnes rencontrées dans les rues à Abidjan se prononcent.
L'Internet est un bon outil de travail. Pour les jeunes, certains y vont pour faire des recherches par rapport à leurs études, pour avoir plus de connaissances dans ce qu'ils apprennent à l'école, pour des recherches approfondies et autres.
Bon outil de communication. Parce que sur Internet, on peut faire des recherches, on peut s'instruire.
Du point de vue scolaire, l'Internet est sans conteste la principale source d'information en ligne des jeunes pour la réalisation des travaux scolaires.
Je m'appelle André, moi j'ai 20 ans. Quand je vais au cyber, je fais les recherches. Par exemple, si on nous a donné le code, les exercices, tu veux venir au cyber, venir bien t'instruire, bien comprendre la leçon.
Je m'appelle Bouaka, j'ai 17 ans. Souvent, je viens faire les recherches sur les choses que je ne connais pas.
Moi, c'est Issou Klendel. Je viens au cyber, je viens faire les recherches, mieux connaître aussi. Très souvent, ici sur Google, Facebook.
Réaction d'Abraham Kwasi, journaliste, spécialiste des réseaux sociaux.
L'arrivée des jeunes sur Internet peut s'expliquer par l'accès relativement moins cher des terminaux, des appareils connectés et puis des volumes Internet. Avec aussi l'apparition des réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années, on a de plus en plus de jeunes qui sont connectés. Internet a inévitablement gagné du terrain dans les zones urbaines.
La mise en place d'un cybercafé est tout de même un canal de demande d'emploi, relève Soulé Sidibé, gérant d'un cyber dans la commune d'Atiekoubi.
Plusieurs personnes n'ont pas la capacité de pouvoir se permettre de s'offrir certains outils. Viennent au cyber pour faire des recherches, faire des inscriptions pour les concours, les recherches d'emploi. Viennent faire des demandes, des rapports de stage.
Mais l'Internet a aussi ses revers qui sont décriés.
Les jeunes utilisent très mal l'Internet avec le phénomène des prompteurs. Donc c'est le côté néfaste de l'Internet.
Certains vont, c'est pour arnaquer certaines personnes et autres.
Il y a des élèves qui vont sur Internet pour faire des choses qui ne sont pas appropriées.
Le journaliste Abraham Kwasi est spécialiste des réseaux sociaux.
La montée en puissance était ici ne se fait pas sans inconvénient. On a par exemple la cybercriminalité avec tout ce qui va comme cyberarnaque, arnaque au sentiment, arnaque aux fausses affaires, avec le harcèlement, le chantage en ligne. Donc déjà en termes de conseils, c'est de demander aux utilisateurs de faire attention aux informations qu'ils reçoivent et qu'ils partagent, de demander aux plus jeunes de se tourner vers tout ce qui est programme d'éducation aux médias.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedouya et Eric Manirakidza. À la mise en onde, nous avions Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.